Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Adiciat, et bienvenue dans votre émission Page à page, où nous nous retrouvons comme chaque jeudi de 9h30 à 10h sur les ondes de Radio Occitanie. Alors aujourd'hui, je reçois Luce Rostol. Bonjour Luce.
Bonjour.
Qui vient nous présenter son livre L'Algérie à l'ombre de Maria, édité aux nouvelles éditions Loubatière. On en parle avec elle dans un instant. Mais comme à l'accoutumée, quelques petites infos pour vous rappeler tout d'abord que ce dimanche 28 février à 16h à la médiathèque José Cabanis, grand auditorium Red Jardin, vous pourrez assister à un spectacle, un conte dans le noir, pour un public à partir de 12 ans. L'entrée est libre, c'est accessible aux malvoyants, non-voyants et bien sûr à tous les autres. Vous aurez les yeux bandés pour être dans le noir, hein, comme tout le monde. Et puis il y aura deux artistes, Luc Baron pour les instruments de musique et le chant, et puis Anne-Marie Lopez Del Rio, qui est conteuse de métier et qui est malvoyante. Et donc, le spectacle qu'elle vous propose, c'est elle qui a écrit cette histoire. Ça s'appelle Le rendez-vous amoureux. Et c'est pas toujours ce qu'on peut penser, d'ailleurs. Donc, je vous laisse le suspense. L'entrée, comme je vous le disais, est libre. Je vous invite vraiment à y aller. La durée du spectacle, c'est 1h15. Et vraiment, je pense que ça vaut le coup d'y aller si vous êtes disponible ce dimanche à 16h avec vos enfants, donc à partir de 12 ans, pas les tout petits parce qu'il y a quand même une petite réflexion, donc c'est mieux pour les un peu plus grands. Ensuite, je vous rappelle que l'atelier d'écriture d'Hélène Dufaux, Hélène, 7 à écrire le week-end du 13 et 14 mars prochain, donc un atelier d'écriture en bord de mer pour un week-end. Donc les inscriptions sont à faire avant le 1er mars auprès donc d'Hélène Dufaux au 09 52 83 22 85 ou son portable 06 70 22 02 99. Un week-end donc d'écriture en bord de mer avec visite de la ville de Sète et puis donc de l'écriture avec comme vue panoramique et bien la mer. C'est très, hein, Luce, ça vous dit?
Ah oui, ça me dirait.
Ça vous parle, ça vous parle. Luce aime la mer.
Et Sète d'ailleurs.
Et Sète aussi, voilà. Alors, et je terminerai cette petite page d'info avec l'exposition à Audi-Sud des tableaux de Bernard Cadenne, ce peintre coloriste qui était venu nous présenter son livre Toques étoiles qu'il a fait avec Michel Sarran, le restaurateur étoilé de Toulouse. Alors, cette exposition à Audi-Sud commence le 2 mars et s'achèvera le 9 avril. C'est organisé par le Cercle Plume, c'est l'atelier du peintre. Donc, tous les tableaux de Bernard Cadenne avec reconstitution de son atelier. Donc, c'est l'occasion, on avait parlé donc de ses tableaux par l'intermédiaire de son livre, et puis ici à Radio Occitanie, mais là, vous aurez l'occasion de voir ses tableaux en vrai et de voir le peintre en vrai aussi. Donc, n'hésitez pas à y aller. Donc, c'est du 2 mars, je suis perturbée par ces vacances scolaires, du 2 mars au 9 avril.
Page à page, Claire Ambille.
Pou, pou, pitou. Voilà, et maintenant je me tourne vers Luce Rostol. Vous connaissez Bernard Cadenne?
Oui, justement, j'ai regardé son livre
Toques étoiles.
Toques étoiles, et j'étais...
Très beau livre. Hein.
Oui, très beau livre, voilà.
Et puis c'est original, hein, la peinture, et puis en face à face, une recette de cuisine par...
Alors, j'ai pas essayé les recettes. Hein,
je pense qu'elles sont difficilement réalisables par... même pour une bonne cuisinière, hein, je pense qu'il faut vraiment être...
J'ai dégusté l'étoile, en tout cas.
Oui, voilà, là, c'est vrai que pour les yeux, c'était un régal des yeux pour les tableaux de Bernard Cadenne, coloriste, qui aime le rouge, d'ailleurs. Il y a beaucoup de tableaux à base de rouge.
C'est très coloré, oui.
Alors, Luce Rostol, vous êtes née près d'Oran, en Algérie. Vous êtes arrivée en France quand vous aviez à peu près une dizaine d'années.
Oui, 9 ans et demi. En
fait. 9 ans et demi. Vous êtes toulousaine donc d'adoption, on va dire, depuis que vous avez 17 ans et demi. Après le bac, hein, vous avez fait vos études à Toulouse même.
Oui, oui. Hein.
Vous avez fait donc des études de psychologie à l'université du Mirail à Toulouse. Et puis après, vous êtes partie dans l'Aude pour exercer votre métier de psychologue.
Oui, c'était mon premier travail. Je suis tombée d'ailleurs amoureuse de,
de cette région.
Des Corbières. Et
oui.
Voilà,
oui. Ben, y a la mer, hein, voilà.
On y arrive. Oui.
On arrive à la mer. Et puis maintenant, vous travaillez donc sur Toulouse. Hein, vous avez fait, vous avez travaillé dans le quartier de Bagatelle.
Oui, quelques années, peut-être 2-3 ans, et puis en Palau surtout. Hein, depuis
là, vous êtes voilà, dans un centre médico-social, donc sur un Palau.
Oui.
Voilà, où vous recevez donc des enfants, même en bas âge, hein, même des tout petits, des bébés.
Oui, des enfants jeunes, des parents.
Des parents.
Et puis je travaille avec toute une équipe, hein, surtout c'est un travail.
Oui, un travail d'équipe. Oui,
tout à fait.
Avec pédiatre, puéricultrice, etc.
Puéricultrice, médecin, donc, et puis assistante sociale, éducatrice, éducateur. Donc bon, c'est une. Des administratifs aussi, enfin, qui ont des rôles intéressants. Et bon, c'est une grande. Une belle équipe,
une grande famille,
oui, très, assez solidaire quand même dans tout ça, pour faire face aux difficultés ici et là.
Alors, votre arrivée à l'écriture, à ce récit, hein, plus exactement, parce qu'on parle de roman, mais c'est plutôt un récit, hein, je dirais. Donc, l'Algérie à l'ombre de Maria aux nouvelles éditions Loubatière. L'arrivée à l'écriture donc, de ce récit, à ZDF, ça a déclenché quelque chose
Oui, il y a eu plusieurs.
Chez vous.
Oui, ça a été une.
En vous, plus exactement.
Oui, il y a eu plusieurs moments comme ça. C'est avec du recul, en fait, que je me suis rendu compte que l'événement, l'explosion d'AZF à Toulouse a été un temps qui m'a permis à la fois de me remémorer des moments de la guerre d'Algérie, donc, et puis d'avoir recours à l'écriture pour essayer justement de mettre
en mots
sur ces émotions, sur ces émotions très physiques, très corporelles. Et puis aussi, j'étais quand même très touchée, on était très émus, enfin toute l'équipe, hein, par les récits des personnes qui venaient de vivre cette explosion dans la cité.
Puis en tant que psychologue, vous avez été de suite confrontée aux victimes d'AZF. Hein,
oui, c'est ça. Et... il y avait ce vécu de ces personnes et également ce vécu se superposait, enfin ce traumatisme de l'explosion avec ce qu'ils avaient vécu dans leur pays. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de réfugiés, soit de la République démocratique du Congo, d'Algérie, du Kosovo. Et cette superposition des traumatismes m'a renvoyé, moi, à mon propre, évidemment,
à ce qui s'était passé pendant
la guerre. Et j'ai commencé à écrire le soir, à ce moment-là, à mettre... ce que j'éprouvais. Donc ça a été une des premières.
Mais ça a été un facteur déclencheur.
Ça s'est passé longtemps avant, puisque AZF c'est 2001. J'ai commencé à écrire en 2005, en fait. Voilà, à peu près, 2004-2005.
Vous avez eu peut-être un autre facteur déclencheur, c'est la mort de votre maman.
Oui, alors là, c'est ce qui m'a immédiatement enfin, mis au travail.
Oui, là,
travail,
vraiment,
en fait.
Là, vous êtes mise, au travail, là.
C'est l'imminence de sa disparition, puisque j'ai commencé à écrire 8 jours avant. Et la prise de conscience du fait que ces personnes disparaissaient, ces témoins de cette histoire, de cet événement, ces témoins de mon enfance, disparaissaient les uns après les autres. Et voilà, il y avait des choses à...
Il fallait...
Garder. Voilà. Mais je ne savais pas du tout que ça deviendrait un livre. C'était vraiment simplement, il y avait des images qui m'arrivaient et puis je voulais les retenir un peu en les mettant en mots. Un peu comme au réveil, on écrit après un rêve. On se dit, bon, celui-là, il ne faut pas qu'il s'échappe.
Ouais. Bah, tant mieux qu'il a été publié, ces fragments de vie. Parce que bon, moi, j'ai beaucoup aimé votre récit. Donc, c'est un récit, comme vous le disiez, donc fragment par fragment, à partir d'images, hein, d'une mémoire visuelle donc que vous avez mise en mots et c'est là donc la lecture à haute voix auprès de vos amis qui vous a un peu poussé à inciter à poursuivre et à vous faire à chercher un éditeur finalement.
Oui, ça a été un livre aussi qui a été porté par beaucoup d'amitié enfin et d'affection parce que je crois que on ne sait pas du tout quand comment on écrit, enfin la qualité de l'écriture, on se met à écrire, mais on ne sait pas si
c'est bien,
si c'est
lisible,
et la réaction des amis, l'encouragement de ces personnes, l'aide aussi m'a permis
continuer,
d'écrire.
Voilà. Alors c'est votre premier donc entre guillemets roman, enfin votre premier livre publié, on va dire, donc un récit, je dirais plus exactement, qui est assez court, 122 pages, mais il est très intense, très beau. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve qu'il est écrit très simplement, et ça c'est très agréable pour le lecteur, ce que vous y racontez, c'est pas toujours évident, donc c'est bien que ça soit écrit simplement, avec beaucoup de pudeur, je trouve, et puis il y a de la poésie aussi avec la description de la beauté des paysages magnifiques d'Algérie, d'Oranie plus exactement. Il y a de l'humour aussi, puisqu'il y a des petites anecdotes, par certaines anecdotes, on sourit des fois.
Pas l'impression à l'écrire.
Mais si. Il y a de l'émotion, bien sûr, avec bien la réalité de la guerre. Mais donc, moi, je trouve qu'il y a de la vie. Il y a de la vie dans votre livre, malgré le fait qu'il y ait de la mort aussi, bien sûr. Mais il y a de la vie. Moi, je l'ai trouvé quand même.
Je crois que c'était l'imminence ou la crainte de la mort qui faisait d'ailleurs vivre cette. De manière très forte. Enfin, la vie était là, très présente, du même coup.
Donc dans ce récit, donc vous tentez de restituer donc la mémoire de ces faits, vous le dites au début du livre, au plus près de votre regard d'alors, un regard d'enfant. Il s'agit aussi d'exhumer les images d'un passé qui ne s'efface pas et qui a toujours été en vous finalement, et aussi de redonner vie à des êtres aujourd'hui disparus, donc vos parents bien sûr, mais aussi tous les autres finalement aussi, et que cette histoire donc tous ces fragments ne vous ont jamais quittés, et donc vous avez eu envie donc de les mettre en mots pour les faire partager.
Oui, d'ailleurs, quand vous parlez des mots simples, c'est l'aboutissement d'une recherche, en fait, d'une quête. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand je faisais des tas de tâches, je cherchais le mot le plus simple pour traduire ce que j'avais.
Votre image, l'image, voilà. Votre souvenir.
Il me fallait, justement, j'aboutissais que lorsque le mot le plus commun pouvait être à même de traduire ce que j'avais vu, ressenti. Et l'autre aspect, c'est que partir des images, c'était une garantie de ne pas plaquer une pensée de la cinquantaine sur ce que j'avais vécu. Je voulais absolument que ça parte d'une image
qui était restée
comme... voilà.
Alors c'est un roman qui est construit donc avec différents chapitres qui sont autant de fragments de vie, de souvenirs d'enfants, comme on le dit, donc les vôtres bien sûr, puisque vous avez passé donc pratiquement les dix premières années de votre vie, donc toute votre enfance, les plus tendres années, on va dire, en Algérie, en Oranie exactement, au moment de la guerre d'Algérie,
les événements d'Algérie.
Voilà. Alors vous aviez 2 ans au moment de l'insurrection, et puis vous avez quitté l'Oranie avec vos parents et votre sœur Michel en juin 1962, quand l'Algérie est devenue algérienne. Voilà. Et donc, c'est ce récit. Donc, je précise au lecteur, ce livre n'est pas un livre sur la guerre d'Algérie.
C'est sur l'enfance.
Voilà, c'est sur un récit de souvenirs d'enfance, d'une enfant qui a vu avec ses yeux d'enfant toute cette période, finalement, avec
dans un cadre très singulier, puisque c'était un petit hôpital communal.
Tout à fait.
C'est ce qui m'a donné d'ailleurs envie d'écrire aussi, c'est que j'ai pris conscience que ce lieu était un théâtre bien particulier. Je crois que je n'aurais jamais eu autant de souvenirs et la chance aussi de rencontrer des étrangers, c'est-à-dire que pour moi, donc des adultes, des Arabes, ça, si je n'avais pas vécu à l'intérieur de ce lieu qui était à la fois un lieu protégé et un lieu de grande liberté.
Oui, d'ailleurs, vous y écrivez, en parlant de l'hôpital, l'hôpital est un lieu initiatique, parce que vous y apprenez comment les femmes enfantent, comment les hommes perdent la vie et donnent la mort. C'est à la fois le paradis et l'enfer.
C'est tout à fait ça. Mais avec ce mystérieux, cette question de la vie, en fait, qui est assez, pour un enfant de 5 ans, et une véritable énigme, en fait, de comment naissent les enfants, etc. Et ça m'a beaucoup mobilisée, ça m'a beaucoup pris de temps. Et ça m'émerveillait toujours de voir arriver ces femmes avec
un gros ventre, puis elles repartaient quelques jours après avec un petit poupon dans les bras.
Absolument, que ma mère m'en fasse un comme ça, mais ça n'a pas marché.
Il y avait le côté vie, puis il y avait malheureusement aussi après les explosions, les blessés qui arrivaient en ambulance.
Oui, les morts aussi.
Les morts aussi. Donc voilà, votre père était directeur de cet hôpital en Oranie. Et vous dites aussi une jolie phrase que j'ai bien aimée. Ma mère transportait la Méditerranée dans ses fétous et l'Algérie s'entendait dans les silences de mon père. Parce qu'après, quand vous êtes venu en France, l'Algérie, plus personne n'en parlait dans votre famille. C'est un peu tabou, mais on n'en parlait pas.
Voilà, c'était pas posé comme un tabou. Mais je crois que mes parents n'avaient pas voulu être nostalgiques dans ce que j'écris. D'ailleurs, ils trouvaient la nostalgie suspecte, en effet, par rapport aux réactions de beaucoup de Français d'Algérie. Eux n'étaient pas là-dedans. Et j'ai compris longtemps après que leur nostalgie ne renvoyait pas à l'Algérie, mais à l'Espagne de leurs parents.
Oui, c'est ce que vous évoquez dans la lettre à votre mère la fin du livre.
Une Espagne qu'eux-mêmes n'avaient pas connue, puisqu'ils sont nés, mes parents sont nés en Algérie.
Enfant d'Espagne, mais né en Algérie.
Ils parlaient de jardins magnifiques, etc. Ma mère parlait des jardins, mon père parlait des jardins de la maison de son grand-père. Et en fait, c'était l'Espagne qu'ils n'avaient pas connue. Et c'était de cette sorte de province complètement imaginaire qu'ils étaient nostalgiques de cela et pas du tout de l'Algérie réelle. Voilà.
Quelque part, le point commun entre les souvenirs, leur ancrage au niveau familial en Espagne et puis l'Algérie, c'est la mer.
C'était la mer.
D'ailleurs,
mon père disait, mais écoute, il suffit d'une eau claire, de quelques oursins, un olivier. On est chez nous. Il y avait aucune. Voilà. Alors, ça pouvait être à Collioure, ça pouvait être à Cadaquès en Espagne.
C'était pas obligé que ça soit à côté d'Oran.
Voilà. Absolument pas.
D'ailleurs, votre papa a terminé sa vie entre Toulouse et Cadaquès. Et son dernier mot, ça a été Cadaquès.
Son dernier mot, ça a été Cadaquès. C'est vraiment authentique.
Voilà, oui, c'est prenant comme souvenir.
Alors, ce dont il était nostalgique, c'était peut-être des rapports avec les Algériens. Et il y avait une anecdote assez drôle, c'est ma mère l'attendait un jour, il était déjà retraité, et elle me disait, mais il ne revenait pas. En fait, il avait passé son temps à la poste de la rue Roclen, et il avait aidé des personnes il était revenu radieux parce qu'il avait pu échanger en arabe à la poste de la rue Roclen. Donc c'était, et je crois qu'il y a beaucoup de Français d'Algérie qui ont cette nostalgie du rapport à l'autre, en fait.
Oui, tout à fait. Mais il avait des frères de lait, votre papa, puisque sa maman l'a allaité assez longtemps, vous le racontez dans le livre. Et donc, elle donnait son lait à d'autres enfants du quartier qui en avaient besoin. Donc, c'est tout ça ce que vous racontez. Bon, bien sûr, le temps passe vite. On va lire un petit passage comme ça pour donner une idée au lecteur de l'écriture et puis du contenu. Mais voilà, c'est un peu toute l'histoire. Voilà, vos souvenirs d'enfance sur place. Et puis après, il y a malheureusement le départ en quatrième vitesse, en pleine nuit, où il faut boucler des baluchons pour partir en France. Et puis après, il y a l'installation en France avec ses difficultés, etc. Donc c'est tout ce que vous racontez dans votre livre, Luce.
Oui, donc je peux vous lire peut-être la toute fin de la guerre, c'est-à-dire au moment...
Avant de partir.
Juste avant de partir, les jours...
qui ont précédé juin 62, votre départ.
Tout à fait, les deux derniers jours.
Eh bien alors, on écoute.
Depuis peu, les engins de guerre s'étaient tus. Les rues qui vibraient sous leur passage ressemblaient désormais à des rivières asséchées et poussiéreuses. L'air de cet après-midi de juin résonnait de cris d'oiseaux bariolés qui se déplaçaient en vol bas et court, rasant les maisons à la recherche d'une présence familière. Jaune, vert, orange, bleu, canaris, perruches et chardonnerets envahissaient les arbustes devant les villas aux volets clos. des chiens errants, racés et soignés, occupaient la chaussée. Certains tournoyaient sur eux-mêmes, d'autres se livraient à des courses insensées, ivres et inquiets d'une liberté nouvelle dont ils n'avaient que faire. Un voile de chaleur s'élevait du sol, chargé de poussière et de lourds parfums. Pieds nus, assise à l'entrée d'une austère bâtisse, bordée d'une nuée de pois de senteur aux couleurs vives, une fillette pâle, les traits tirés, contemple le spectacle vacillant de la rue. J'avais 9 ans, des yeux cernés aux paupières enflées et purulentes. Ils en avaient trop vu, ces yeux, les morts, le sang. Toute l'horreur jaillissait là, dans ces turgescences jaunes qui bordaient mon regard. Les maisons se vidaient une à une chaque nuit, leurs occupants les avaient quittés avant l'aube. La veille, on avait échangé des adresses. On promettait de se revoir un jour sous un ciel de cartes postales. Le lac d'Annecy et son jet d'eau, Paris vu de l'Arc de Triomphe, des prairies trop vertes, des montagnes enneigées, ils allaient sûrement rejoindre ces images ternes, ces lieux sans vie dont on écrivait toujours revenir bientôt. Les Européens partaient, les musulmans avaient depuis plusieurs mois déserté la ville basse pour se réfugier au village nègre sur les hauteurs, restaient les jappements des chiens apeurés et le chant des oiseaux nostalgiques dans l'insolence de ces belles journées d'été. Le calme régnait inouï après tant d'années de fureur, une respiration, un temps suspendu avant de basculer dans l'inconnu, l'Algérie algérienne.
Merci Luce pour ce passage que vous avez lu avec émotion.
C'est le premier texte que j'écris. Voilà,
ouais, c'est le premier. Vous aviez commencé en fait par écrire celui-ci. Bon, après, il se retrouve pas en première, aux premières pages du livre parce que bon, ça a été ordonné différemment dans la publication, mais il est bien dans le livre, placé à un moment donné.
Voilà, c'était le souvenir le plus le plus immédiat qui m'était venu en discutant avec une cinéaste qui parlait de la représentation de la mort. Et elle me disait, faut-il montrer les cadavres ? Enfin, elle parlait de la guerre d'Algérie d'ailleurs, puisque c'est une jeune femme, Dominique Cabrera, donc qui a fait beaucoup de documentaires et de films de fiction. Et nous échangeions comme ça. Et je lui ai dit, voilà, il y avait quelque chose d'une mort, une petite mort là dans ces derniers jours. Et je lui ai parlé de ces oiseaux qu'on avait libérés et qui envahissaient les rosiers, tout ça, devant la maison. Et elle était très émue et je me suis dit, bon, je vais lui écrire ce texte. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Ça a été le texte inaugural, en fait.
Merci voilà. Beaucoup, Luce, pour cette lecture. Alors, bon, comme je le disais, ce récit, donc, ça commence avec l'évocation de votre grand-mère, qui était une femme exceptionnelle, qui est malheureusement décédée le jour de vos 1 an, quand vous étiez encore en Yupala. Mais c'est votre premier souvenir.
Alors, c'était pas vraiment un souvenir, parce que
c'est la première image. Voilà.
C'est une image complètement détachée de tout. Enfin, c'est comme une sorte de rêve. Enfin, c'est une image très curieuse, et quand évidemment des années plus tard j'ai pu dire à ma mère, mais tu étais habillée comme si, ou j'ai vu ça, voilà, c'était ces ampoules brillantes qu'on mettait dans un cendrier, etc. Et je lui racontais, et elle me dit, mais voilà, ce tailleur, elle l'avait pas mis depuis le décès de, oui, parce que c'était un tailleur bois de rose, donc bon, après on porte le deuil, etc. Donc elle m'a dit, mais c'est le jour de, alors elle y croyait pas, parce que c'est quand même très
bah oui,
très
un an, voilà. Non, ça fait petit pour
alors c'était mais c'était juste mais vraiment ça. Ce n'était qu'une image, hein, vraiment. Il y avait ces mains qui jetaient ces ampoules, l'impression de rapidité.
Avec le Yupala, bah oui. Hein.
En plus, comme personne ne me disait rien, je devais m'en donner à cœur joie. Et bon, voilà, donc je n'ai pas un souvenir de quelque chose de triste, rien. Enfin, l'ambiance était plutôt une excitation, parce qu'il y avait du monde. Voilà. Donc voilà, ce premier souvenir, cette première image, c'est ça, ce n'est pas vraiment un souvenir, c'est une image.
Et après, donc, vous racontez la vie quotidienne voilà, dans la villa de l'hôpital, hein, avec vos parents et votre sœur Michel. Et puis après, donc, vous racontez le fameux départ en métropole, et puis donc les différents endroits où vous avez été au cours de cet été 62. Hein, vous avez été un peu nomade.
C'était des grandes vacances.
Oui, des grandes vacances, mais avec des valises qui étaient lourdes comme des cercueils, hein, vous dites à un moment.
C'est l'arrivée. Hein, c'est l'arrivée.
L'arrivée, voilà, ces valises, tout le monde avec ses valises.
Alors je dois l'explication, parce que les valises, il n'y avait plus de valises en Algérie quand nous sommes partis. Et donc, nous avions des espèces de conteneurs avec... des poignées de cercueils. Voilà. Ouais. Et on avait le droit à 2 valises par personne. Donc, nous avions, voilà.
Donc il fallait mettre toute sa vie dans 2 valises.
Voilà. Peut-être que je peux lire le texte de la préparation des valises. Si on a
je fait... crois qu'on n'a pas ouais. trop... Non, voilà, pas, voilà, pas voilà. fini encore, mais...
Non, plus assez le temps.
Et puis donc après, donc vous racontez donc voilà votre arrivée, donc les différents endroits où vous avez été durant l'été 62, puis votre installation à Moissac, hein, où vous allez rester pendant
8 ans.
Hein. Mmh. Votre sœur, elle va partir enseigner dans le nord à Douchy-les-Mines, dans le nord de la France.
Vous pouvez même pas imaginer cet endroit.
Oui, vous avez connu votre première neige avec le premier hiver 62 en France, donc vous n'aviez jamais vu la neige, votre première neige. Et puis donc vous avez eu le premier prix d'honneur aussi avec un livre la petite marchande d'allumettes remis en personne par l'instituteur qui était assez sadique cet instituteur.
Oui, mais, alors pour lui rendre d'abord justice, il m'avait préparé évidemment convenablement à rentrer en sixième, mais son sadisme était égalitaire, il s'exprimait pas seulement
que par rapport aux enfants d'Algérie.
Non.
Enfin, il les appelait les 10 boulets quand même, les 10 enfants d'Algérie, de sa classe.
On pourrait penser qu'il était que son sadisme s'exerçait
uniquement
c'était
pour tout le monde pareil.
C'était sa méthode pédagogique qui était très appréciée puisqu'il était assez réputé.
Et vous avez le premier prix d'honneur. On ne dit pas que c'est grâce à lui quand même, mais bon, voilà. Vous aviez bien travaillé.
Redoublé d'efforts, voilà.
Et puis donc, comme je disais, le livre se termine avec une lettre que vous écrivez à votre maman, qui s'intitule « Cette nuit, je t'ai écrit cette nuit ».
Oui.
Voilà, où vous racontez
Alors c'est le seul texte que j'ai pas travaillé, en fait, qui est venu
comme ça. Naturellement, vraiment spontanément.
Oui, c'est vrai que je voulais rendre hommage à la fois à son humour, au fait qu'elle était vraiment très drôle, très vivante, et que c'est, je crois, cette vivacité et cet humour qui m'a permis de vivre avec, de traverser toutes ces épreuves-là, sans être trop abîmée par toute cette histoire.
Alors, l'Algérie à l'ombre de Maria aux nouvelles éditions Loubatière, écrit donc par Luce Rostol. Et puis, on va se quitter avec une petite musique de là-bas, comme on dit, pour aller avec le livre, avec les souvenirs. Et puis, j'espère peut-être vous revoir, Luce, avec un nouveau livre dans quelques temps.
Peut-être une
fiction, cette fois, peut-être.
Peut-être,
hein,
oui.
Enfin, en tout cas, merci beaucoup, Luce, d'être venue nous parler. Donc, l'Algérie à l'ombre de Maria, nouvelles éditions Loubatière. Merci beaucoup,
Luce. Merci beaucoup à vous, en tout cas, de m'avoir reçue si gentiment.
Avec plaisir, c'est avec grand plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Je recevrai Claudine Canda pour son Diabolopacte aux éditions de Larganier. En attendant, bonne semaine et à d'ici.